Et nous débutons avec votre journal, Anne Fauquembert. Bonjour Anne.
Bonjour, bonjour à tous. Après la rentrée du gouvernement, celle des partis politiques, la France insoumise donne le coup d'envoi des universités d'été ce jeudi avec les élections européennes en ligne de mire. Explication de Lucas Caltritti au début de ce journal.
Et puis c'est aussi le coup d'envoi de la réforme de la santé au travail. Le rapport de la députée La République En Marche, Charlotte Lecoq, sera remis la semaine prochaine au gouvernement, mais il a été publié hier par un magazine spécialisé, compte rendu à suivre de Maïwenn Bordon.
Aux États-Unis, Donald Trump a beau contredire son ancien fidèle Michael Cohen, qui l'accuse d'avoir violé les lois du financement électoral. La pression monte sur la Maison Blanche. Reportage de Grégory Phillips dans un instant.
Et puis à la fin de cette édition, retour sur la situation de la minorité musulmane Rohingya, c'est notamment des enfants, un demi-million de réfugiés au Bangladesh. L'UNICEF s'alarme de leurs conditions de vie.
La rentrée politique a donc été marquée hier par le premier conseil des ministres, un mois après l'affaire Benalla qui aura ébranlé la première partie du quinquennat. Emmanuel Macron a dit vouloir poursuivre, je cite, le déploiement de ses réformes. Aujourd'hui débutent également les traditionnelles universités d'été, ou plutôt ce qu'il en reste. Pour la plupart des partis, ce sont désormais des événements modestes. Seule la France insoumise se démarque à Marseille, deuxième édition des amphis d'été. 4 jours de débats, de conférences et d'ateliers entre militants et élus. Lucas Caltritti.
Et pas uniquement des élus du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise a souvent été accusée de ne pas discuter, de ne pas débattre. Eh bien, elle a invité des députés de l'opposition, sauf ceux du Rassemblement national. À droite, par exemple, Marianne Dubois et Olivier Marleix, deux élus du Parti Les Républicains. Et à gauche, il y aura notamment le député socialiste Boris Vallaud. La question de l'Europe sera aussi abordée dans cette université d'été de la France insoumise afin de préparer les élections européennes de l'an prochain. Ce thème sera le point commun entre tous les événements des différents partis, à commencer aujourd'hui à La Rochelle, en Charente-Maritime, là où se réunissent les élus du Parti socialiste et seulement eux, pas les militants. Même esprit pour le Rassemblement national. Marine Le Pen et ses partisans seront à Fréjus, dans le Var, les 15 et 16 septembre. Et là encore, l'université d'été sera rabotée. L'ERN doit faire des économies. Pour des raisons financières également, les Républicains vont organiser plusieurs petits rassemblements. Le plus conséquent sera celui du 1er septembre à La Bolle. Seront présents le sénateur Bruno Retailleau, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse et Brice Hortefeux. Pas de Laurent Wauquiez, le président des Républicains. Lui fera son habituelle ascension du Mont Mézenc dimanche. La République En Marche, quant à elle, ne fera pas d'université d'été, comme c'est le cas depuis la création du mouvement d'Emmanuel Macron. Le parti préfère organiser des rendez-vous territoriaux animés par les 134 référents départementaux.
Les précisions de Lucas Caltritti. C'est un rapport qui a été maintes fois repoussé tant le sujet est sensible. La députée La République En Marche, Charlotte Lecoq, présentera en début de semaine prochaine ses conclusions sur la santé au travail. Le contenu du rapport a déjà fuité dans le magazine Santé et Travail avant la remise officielle mardi donc au Premier ministre. Seul le secteur privé marchand est concerné par ces préconisations. La santé au travail dans le secteur public sera discutée au moment de la réforme de la fonction publique. Maïwenn Bordon, vous nous décrivez les grandes lignes du rapport de la députée.
Simplifier un système complexe pour gagner en lisibilité et en efficacité. C'est l'idée principale du rapport présenté par la députée Charlotte Lecoq. Avec un constat, il existe aujourd'hui trop d'acteurs liés à la santé au travail, privés, publics, associatifs, nationaux ou encore régionaux. Difficile pour un employé ou un salarié d'y voir clair. Le rapport préconise donc la création d'un seul organisme public. La structure serait baptisée France Santé Travail et elle serait placée sous la tutelle des ministères du Travail et de la Santé. Elle regrouperait l'Institut National et de Sécurité, l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail et l'organisme dédié à la prévention dans le bâtiment et les travaux publics. Objectif notamment de France Santé Travail, coordonner les structures régionales de prévention. Car au niveau régional également, le rapport plaide pour la mise en place d'un guichet unique, soit un interlocuteur clairement identifié pour les entreprises. Chaque structure régionale respectera un cahier des charges national, ce qui permettra de rendre l'action de prévention plus homogène sur l'ensemble du territoire. Enfin, côté financement, une cotisation unique pourrait être mise en place pour les employeurs. La taxe unifiée serait directement versée à l'URSSAF et pourrait être modulée en fonction du risque spécifique de l'entreprise ou de son engagement en matière de prévention.
Compte rendu signé Maïwenn Bordron.
7h05 sur France Culture, c'est la suite du journal d'Anne Fauquemberg. Aux États-Unis, la Maison-Blanche vit un véritable cauchemar depuis deux jours.
Conséquence des déclarations de Michael Cohen, l'ex-avocat de Donald Trump, qui s'est exprimé lundi devant un tribunal fédéral de Manhattan. Il a reconnu avoir payé deux femmes pour acheter leur silence, et ce, à la demande du milliardaire. L'actrice porno et la playmate avaient déjà affirmé qu'elles avaient eu une relation avec Trump et qu'on les avait payées pour les faire taire à quelques semaines de la présidentielle de 2016. Cohen a plaidé coupable et c'était l'embarras hier à la Maison-Blanche, Grégory Phillips.
Est-ce que le président a commis un délit ? Hier après-midi, lors du traditionnel point presse de la Maison-Blanche, la porte-parole Sarah Sanders est laconique. On vous l'a déjà dit plusieurs fois. Il n'a rien fait de mal. Il n'y a pas de charge contre lui. Donald Trump, lui, a toute la journée d'hier sur Twitter vilipendé son ancien avocat, un menteur, dit-il, qui a cédé face à la pression des enquêteurs. Puis sur Fox News, dans un entretien qui sera diffusé ce matin aux États-Unis, le président affirme que le versement par Cohen de 130 000 puis 150 000 dollars à deux femmes pour acheter leur silence n'est pas une infraction. Voici un extrait.
Est-ce que ce sont mes paiements qui ont été faits avec l'argent de la campagne ? Non, c'était mon argent à moi. D'ailleurs, ma première question, ça a été ça. Est-ce que c'est la campagne qui a payé ? Parce qu'il y avait un risque. Mais non, il n'y a pas eu de violation de la loi sur le financement électoral.
La Maison-Blanche veut désormais passer à autre chose. Hier soir, Donald Trump a publié, toujours sur Twitter, une courte vidéo dans laquelle il évoque un fait divers qui a marqué le pays ces derniers jours. Une jeune femme tuée dans l'Iowa par un immigré mexicain présenté comme illégal.
A person came in from Mexico and killed her.
À 70 jours des élections de mi-mandat, pour Trump, il faut faire oublier ses accusations et continuer à mobiliser son électorat.
Correspondance à Washington de Grégory Phillips. Donald Trump, qui s'est par ailleurs montré peu enthousiaste à l'idée d'une reprise des pourparlers commerciaux avec la Chine. La Maison-Blanche accueille aujourd'hui une délégation de ministres pékinois pour tenter de trouver une issue à la guerre des taxes. Cette nuit est entrée en vigueur une nouvelle salve de droits de douane punitifs. 16 milliards de dollars d'importations chinoises désormais taxées à hauteur de 25% par Washington. Pékin a immédiatement répliqué. Nous y revenons dans le journal de 8 heures. S'il est authentifié, c'est un enregistrement qui laisse entendre que le chef de l'organisation islamique est encore en vie. Aboubakar al-Baghdadi appelle ses partisans à tenir bon dans un message diffusé hier sur la messagerie Telegram. 55 minutes de déclaration, les premières depuis un an. Baghdadi, dont la mort a pourtant été annoncée à plusieurs reprises, se félicite des récents attentats au Canada et en Europe. Il y a un an, commençait l'exode des Rohingyas de Birmanie, victimes de violences et de répression. Entre 700 et 800 000 personnes issues de cette minorité musulmane se sont exilées. La grande majorité d'entre eux au Bangladesh, mais ce pays pauvre qui leur a ouvert les frontières n'a pas les moyens de leur offrir des conditions de vie décentes. L'UNICEF sort aujourd'hui un rapport sur la situation des enfants Rohingyas. L'Organisation des Nations Unies s'inquiète de l'avenir de plus d'un demi-million de mineurs, Nadine Epstein.
Au Bangladesh, depuis le début de la crise, l'UNICEF décrit, image à l'appui, les conditions dans lesquelles vivent les réfugiés de Birmanie. Alema Saïda, 8 ans, vend des légumes dans le marché inondé du camp de réfugiés de Chakmakul. C'est l'un des plus petits camps situés le long d'une autoroute. Jasmine est photographiée dans la boue du camp où elle vit avec sa mère, son père et ses frères et sœurs, dans un abri en plastique. Début juin, pendant les premiers jours de pluie de mousson, les inondations et les glissements de terrain ont obligé de nombreuses familles à déménager plusieurs fois une partie de l'infrastructure des camps érodée. Le plus grand camp de réfugiés du monde, 800 000 personnes, se bat contre les pluies de mousson. Et dans cette situation, ce sont 500 000 enfants qui grandissent dans des conditions rudimentaires, sans éducation véritable, manque de moyens et d'équipements de base comme l'accès à l'eau. 1200 centres d'apprentissage ont été créés, mais c'est très insuffisant, explique l'UNICEF, pour qui fournir une éducation aux enfants Rohingyas est l'urgence et l'immense défi actuel pour éviter une génération perdue. Le rapport demande aussi au gouvernement birman de créer les conditions permettant le retour volontaire des groupes ethniques. Un accord dans ce sens avait été signé il y a deux mois, mais il n'est pas respecté par la Birmanie, a déclaré l'ONU.
Explication de Nadine Epstein. La météo de ce jeudi, très nuageuse au nord-ouest, lourde et orageuse partout ailleurs, même si le soleil reste dominant sur une grande moitié sud. Les températures, elles oscillent ce matin entre 15 et 29 degrés du nord au sud. Cet après-midi, il fera 19 à Cherbourg, 24 à Lille, 27 à Paris, 28 à Bordeaux, 31 à Lyon et jusqu'à 32 à Marseille.